Bonsoir à toutes et à tous. Le monde aujourd'hui, VOA Afrique, édition du mardi 31 décembre 2024. En direct de Washington, Rosine Mounezero. Voici les titres. Au Tchad, le parti de l'opposant, Succès Masra, a appelé à une nouvelle transition au lendemain d'élections marquées par une faible participation. Au Bénin, le ministère des Affaires étrangères dénonce les propos du chef du régime militaire au Niger. Le département du Trésor américain a déclaré lundi qu'un acteur parrainé par l'État chinois était à l'origine d'une cyberattaque. Et puis en Corée du Sud, un tribunal a émis mardi un mandat d'arrêt contre le président déchu Yoon Suk-yeol. Et dans notre partie magazine, nous reviendrons sur l'héritage de l'ancien président américain Jimmy Carter, décédé dimanche à l'âge de 100 ans. Ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Éco. Pour l'instant, le journal. Au Tchad, le parti d'opposition Les Transformateurs, dirigé par Succès Masra, a réclamé une nouvelle transition politique après les élections législatives, provinciales et locales du 29 décembre 2024. Les précisions de Jean-Roger Billon.
Les Transformateurs ont dénoncé un échec retentissant du processus électoral, affirmant que les résultats avaient été préfabriqués. Ils appellent à un dialogue inclusif pour corriger cet échec et instaurer une transition politique équitable. Ces élections qui marquent la fin de 3 ans de régime militaire ont été marquées par une faible participation, 52,37% au niveau national et 36,22% à N'Djamena, et des accusations de fraude de la part de l'opposition. Succès Masra, ancien premier ministre et chef du parti, avait déjà perdu la présidentielle de mai 2024 face à Mahamat Idriss Déby Itno, réélu avec 61,3% des voix, après avoir pris le pouvoir en 2021 suite à la mort de son père. Le parti au pouvoir, le Mouvement Patriotique du Salut, a rejeté les critiques des transformateurs, qualifiant leur boycott de stratégie destructrice et affirmant que cela les avait privés de prouver leur capacité à gérer les affaires publiques.
Le président sénégalais Bassirou Diomaye Faye a limogé mardi Cheikh Oumar Diagne, ministre en charge de l'administration et de l'équipement à la présidence de la République. Monsieur Oumar Diagne a récemment qualifié de traîtres les tirailleurs sénégalais, troupes d'infanterie ayant participé aux campagnes coloniales menées par la France. Il avait affirmé que ceux qui célèbrent les tirailleurs ne savent pas ce que sont en réalité ces soldats coloniaux dans une interview avec une télévision locale. Ces propos avaient soulevé un tollé dans l'ancienne colonie française. Les raisons du limogeage n'ont pas été précisées. Au Mali, un tribunal de Bamako a condamné lundi à 2 ans de prison, dont un ferme, l'opposant Issa Kaoundjim, pour avoir critiqué les militaires au pouvoir au Burkina Faso, voisin. Figure politique malienne, M. Kaoundjim avait mis en doute, lors d'une émission sur la télévision locale Djoliba TV News, la crédibilité d'un supposé coup d'État déjoué au Burkina Faso. Il est ainsi condamné à la prison et a payé une amende d'1 million de francs CFA par le pôle national de lutte contre la cybercriminalité qui dépend du tribunal de Bamako selon une source judiciaire. Au Bénin, le ministère des Affaires étrangères a dénoncé ce mardi les propos du chef du régime militaire au Niger. Ce dernier a accusé le Bénin d'implication dans des actes terroristes contre son pays. Le point avec Eric Manilakis.
Le chef de la diplomatie béninoise, Olusegun Bakari, a officiellement protesté contre les propos du général Abdulrahman Tchiani dans un courrier adressé au ministre des Affaires étrangères du Niger. En raison des accusations infondées portées contre notre pays, la chargée d'affaires du Niger a été convoquée pour clarification, a affirmé la diplomatie béninoise. Dans un entretien diffusé à la télévision publique au Niger le 25 décembre, le général Abdulrahman Tchiani a accusé le Bénin de servir de base arrière à des terroristes et de vouloir déstabiliser son pays. Le Bénin reste attaché au dialogue et à la collaboration fraternelle entre les deux nations, a déclaré le ministère des Affaires étrangères du Bénin sur X. Les relations entre les deux voisins s'étaient tendues après le coup d'État militaire contre le président Mohamed Bazoum en juillet 2023. La frontière entre les deux pays reste pour le moment fermée, mais Cotonou et Niamey ont nommé de nouveaux ambassadeurs.
Un magistrat de Bamenda, dans la région anglophone du nord-ouest du Cameroun, en proie à un conflit séparatiste, a été enlevé dimanche soir à son domicile, a indiqué l'Organisation de défense des droits humains Conscience africaine dans un communiqué. De nombreux autres civils ont été kidnappés le même jour et amenés vers une destination inconnue par des hommes armés que l'on présume être des séparatistes, ajoute le communiqué. Des miliciens ont lancé mardi une attaque dans l'état semi-autonome du Puntland, dans le nord de la Somalie, avant d'être tués sans atteindre leur cible. C'est ce qu'ont rapporté les autorités locales qui affirment que l'attaque avait été planifiée par le groupe État islamique. Cette attaque survient quelques jours seulement après que le Puntland a annoncé des préparatifs en vue d'une opération militaire d'ampleur pour combattre l'État islamique dans la région d'Almis où des miliciens liés à l'État islamique seraient stationnés. Deux migrants tunisiens, dont un enfant, sont morts et 17 autres ont été secourus dimanche au large de la côte nord de la Tunisie après une panne sur leur embarcation de fortune. C'est ce qu'a indiqué la garde nationale.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
La Chine a riposté mardi aux déclarations du Trésor américain affirmant qu'une cyberattaque chinoise a permis de contourner sa sécurité informatique et dérober des documents qualifiant ses accusations d'infondées. Ces déclarations interviennent dans un contexte de méfiance occidentale envers les piratages d'origine chinoise. Les précisions de John Lydon.
Le département du Trésor américain a indiqué dans une lettre transmise au Congrès américain qu'une attaque informatique menée plus tôt ce mois-ci a permis l'accès à certains de ses postes de travail. Un pirate informatique est parvenu à obtenir l'accès à une clé utilisée par un prestataire de services et a pu accéder à distance aux stations de travail et à certains documents non classifiés, selon le document. La Chine a démenti ces accusations, affirmant que Pékin a toujours été opposé à toute forme d'attaque de pirates informatiques, mais s'oppose encore davantage à la diffusion de fausses informations à l'encontre de la Chine à des fins politiques. Aux États-Unis, le département du Trésor a contacté l'Agence américaine de cybersécurité après avoir été alerté de la situation par son fournisseur Beyond Trust et a travaillé avec les forces de l'ordre pour évaluer l'impact. Le département n'a pas fourni d'autres détails sur ce qui a été affecté par l'intrusion, mais a promis de publier un rapport très prochainement.
Un tribunal sud-coréen a émis un mandat d'arrêt ce mardi contre l'ex-président Yoon Suk-yeol, l'obligeant à comparaître devant les enquêteurs. Cette décision fait suite à sa tentative ratée d'imposer la loi martiale, une mesure choc qui avait plongé le pays dans le chaos. Plus d'infos avec Nani Talani.
Le mandat d'arrêt et le mandat de perquisition contre le président Yoon Suk-yeol ont été émis ce matin. Aucun calendrier n'a été établi pour la suite des procédures, précise un communiqué du bureau d'enquête sur la corruption des hautes personnalités qui centralise les investigations. L'avocat de M. Yoon dénonce des mandats illégaux et invalides émis sur demande d'une agence qui n'a pas autorité en matière d'enquête. Il a déposé une demande d'annulation. C'est la première fois en Corée du Sud qu'un président en exercice est visé par un mandat d'arrêt, Yoon Suk-yeol étant toujours officiellement en poste en attendant que la Cour constitutionnelle se prononce sur sa destitution. Il est actuellement suspendu de ses fonctions, interdit de quitter le pays et sous enquête pour rébellion, un crime passible de la peine de mort. Les autorités judiciaires justifient leur action par les trois convocations ignorées par Yoon, qui avait refusé de répondre aux enquêteurs. Il avait sidéré le pays le 3 décembre en proclamant par surprise la loi martiale avant de revenir sur sa décision sous la pression des députés et des manifestants.
Le monde réveillonne ce soir sous les feux d'artifice pour célébrer 2025 au terme d'une année marquée par l'or olympique, le retour de Donald Trump, mais aussi de nouveaux bouleversements au Moyen-Orient et en Ukraine, faisant espérer la paix aux populations civiles avec à l'horizon des avancées de l'intelligence artificielle et un ralentissement de l'inflation. 2025 suscite l'attente du secteur économique après une année 2025. 2024 encore plus chaude que la précédente. 2025 devrait être l'une des trois aux températures les plus élevées jamais enregistrées selon les projections de l'agence météorologique britannique Met Office. À Sydney, sur l'un des fuseaux horaires les plus à l'est de la planète, qui sont passés les premiers en 2025, de nombreux Australiens se disent soulagés de dire adieu à 2024. Présent la Minute Éco avec Jean-Roger Billon.
Le Soudan du Sud prévoit de relancer le 30 décembre 2024 la production pétrolière des blocs 3 et 7 interrompus depuis février en raison de la guerre au Soudan qui a endommagé l'oléoduc d'exportation. Le pétrole représente 90% des exportations du pays, mais la reprise reste incertaine en raison de problèmes techniques à résoudre. Le Nigeria a intensifié sa lutte contre le vol de pétrole dans la région du delta du Niger dans le but d'augmenter la production nationale à 3 millions de barils par jour en 2025. Le premier producteur de pétrole d'Afrique, qui dépend de l'or noir pour environ 2/3 des recettes de l'État et plus de 90% des recettes en devises, a été touché par des vols de pétrole à grande échelle qui ont réduit les finances de l'État ces dernières années. Plusieurs pays africains, dont le Kenya, l'Ouganda, le Ghana, le Niger et la Côte d'Ivoire, sont le théâtre de manifestations contre la baisse du pouvoir d'achat et la hausse des prix. Cette économie du mécontentement reflète une colère sociale croissante, alimentée par la pauvreté, le manque d'opportunités et une gouvernance déficiente. Les réponses gouvernementales à ces mouvements sont souvent répressives, avec des conséquences humaines significatives.
Place maintenant au sport avec Eric Manilakiza. Bonsoir Eric.
Bonsoir Rosine.
Football, un mercato d'hiver européen sous le signe de nouvelles règles.
L'incertitude domine à l'approche de l'ouverture du mercato d'hiver européen demain mercredi avec le nouveau cadre temporaire des transferts annoncés par la FIFA, mais aussi les ajustements pressants à effectuer pour Manchester City ou encore la Juventus Turin. La FIFA a réagi en proposant un nouveau cadre temporaire portant sur les règles régissant les indemnités pour rupture de contrat ou encore les procédures devant le tribunal du football.
En Angleterre,
l'entraîneur espagnol de Manchester City, Pep Guardiola, a réclamé de l'aide en défense centrale et au poste de milieu défensif. Son club s'est effondré sportivement ces deux derniers mois, miné par les blessures. Chez l'autre Manchester United, 14e de Premier League, la situation de Marcus Rashford sera scrutée de près. Chelsea pourrait aussi alléger son riche effectif, selon BBC Sports, qui évoque des départs possibles pour le leader Liverpool. L'urgence se porte sur les prochaines fins de contrat du capitaine Virgil van Dijk, du défenseur Trent Alexander-Arnold et de l'attaquant star égyptien Mohamed Salah.
Et en Espagne ?
La justice espagnole a de nouveau rejeté lundi la demande du FC Barcelone d'enregistrer son joueur Dani Olmo et le club n'a plus que jusqu'à ce mardi soir pour trouver une solution financière, faute de quoi il pourrait perdre le milieu de terrain qu'il a signé cette saison.
Et puis en France,
le PSG pourrait être tenté de recruter un attaquant afin de régler son inefficacité chronique en Ligue des Champions. Le défi pour l'Olympique Lyonnais est de désamorcer la bombe à retardement d'une relégation en Ligue 2 en fin de saison et assorti d'une interdiction de recruter et d'un encadrement de la masse salariale. L'OM ne devrait s'intéresser qu'à l'arrivée d'un ou deux défenseurs. L'entraîneur Roberto De Zerbi a accouché d'une équipe titulaire solide et la porte au départ sera sans doute ouverte pour ceux qui jouent peu.
Et en Italie,
l'AS Milan, 8e, vient tout juste de changer d'entraîneur et Sergio Conceição souhaiterait un renfort par ligne en priorité en défense. La Juventus Turin, 6e, devrait être l'actrice majeure du mercato hivernal en Italie. L'AS Rome, distancée dans la course à la Ligue des Champions, son objectif du début de saison pourrait profiter du mercato de janvier pour faire un premier ménage et se débarrasser notamment de son capitaine. Enfin, NBA pour terminer, la star de Los Angeles Lakers, LeBron James, qui a fêté lundi son 40e anniversaire, a déclaré qu'il pourrait jouer encore 5 à 7 ans en NBA à un niveau élevé, tout en admettant qu'il prendrait probablement sa retraite avant. Le King, qui s'exprimait après une séance d'entraînement des Lakers, a également déclaré qu'il prévoyait de terminer sa carrière en NBA avec les Lakers et qu'il ne ferait pas de comeback comme Michael Jordan.
Merci Eric.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Les récents affrontements dans les hauts plateaux du territoire de Fizi, dans le sud Kivu, en République démocratique du Congo, entre les FRDC et la coalition armée Gumino Twigwaneho Android, ont poussé environ 80 900 habitants à fuir leur village sur l'axe Minembwe-Ilundu. Toutes ces personnes, en majorité des femmes et des enfants, ont déserté les villages de Nundu, Kisoki, Mbarara, Madegu Centre, Muzinda, Kiziba et Kitavi. Pour en parler, Eddy Isango a joint à Fizi le coordinateur de la société civile, Jacques Alimassi.
C'est depuis le 23 de ce mois, de cette année, où dans le territoire de Fizi, précisément dans les secteurs de Lulenge, dans les groupements de Basimunya-Kassi, dans les villages de Minembwe, où on a signalé les affrontements d'une part les groupes armés Twigwaneho, dirigés par Makanika, contre les éléments des FRDC, et de l'autre côté, les groupes armés Miloze Bishambuke, qui s'est coalisé avec les groupes armés Maïmaï Yafutumba, qui s'est battu contre le groupe armé toujours Twigwaneho. Ces affrontements ont causé le déplacement de la population. Au moins sept villages environnant les villages de Minembwe Centre ont été vidés de la population et la population a pris fuite vers une destination inconnue. Mais les autres se trouvent, d'autres, une grande majorité de la population qui se sont déplacés se trouvent dans les Minembwe Centre. Et que donc, il vous souviendra que pendant que ces affrontements se déroulaient, les enfants de l'école primaire présentaient leurs épreuves de fin de semestre, mais également c'était une période où nous sommes pour le moment la population célébrait le monde entier la fête de nativité, mais aussi la fête de fin d'année de 2000. C'est pour le moment qu'ils sont en train de passer une vie pénible, ils passent la nuit à la belle étoile. Ils sont exposés pour le moment aux maladies hydriques et hygiéniques, voire même la malnutrition.
Vous dites que ces personnes sont maintenant dans des endroits inconnus. Qu'est-ce que ça veut dire? Sont-elles dans des forêts? Comment vous expliquez ça?
Il y a certaines familles qui ne sont pas repérées jusqu'à preuve du contraire. Pour dire que cela reste à croire qu'ils ont pris fuite dans la forêt et les autres se trouvent dans le village de Minembwe Centre.
Mais quelle est la situation aujourd'hui à Minembwe? Quelle est la situation sécuritaire?
La situation sécuritaire pour le moment, nous observons une accalmie petit à petit. Et ça fait maintenant 3 jours ou 4 jours depuis que les affrontements ont cessé dans le Minembwe Centre, voire même dans les villages environnants Minembwe Centre. Ces affrontements ne sont pas ethniques pour le moment. C'est un groupe armé qui s'est soulevé contre le gouvernement congolais, dont notamment les Twigwaneho et leur bande là. Ils se sont soulevés contre le gouvernement congolais et le gouvernement congolais à son niveau s'était coalisé avec d'autres groupes armés, dont notamment le groupe armé Bishambuke et le groupe armé Maïmaï Yakutumba. Ils se sont coalisés et ils ont commencé directement à se battre contre le groupe armé Twiragino et Sassix.
Jacques Alimassi, coordonnateur de la société civile à Fizi.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com, à tout de suite.
C'est au 31 décembre 2024 que la transition devrait prendre fin en Guinée, une date à laquelle la junte au pouvoir dans le pays avait promis un retour à l'ordre constitutionnel après le renversement le 5 septembre 2021 du président Alpha Condé. Le comité national du Rassemblement pour le développement conduit par le général Mamadi Doumbouya a laissé entendre il y a quelques semaines que ce délai ne sera pas respecté. La junte évoque maintenant une deuxième phase de la transition dite de refondation de l'État. Face à ce revirement, l'opposition et la société civile annoncent qu'elles ne reconnaîtraient plus l'autorité de la junte militaire après le 31 décembre. Pour en parler, John Lindon a joint l'analyste politique Kabine Fofana.
Le cas est celui du principe de réalité, qu'il soit que 40 mois après, on n'ait pas pu organiser d'élections, ou quoi, bien qu'il y ait un avant-projet de nouvelle constitution qui soit mis à disposition et qui est en train d'être vulgarisé. Il y a le fait qu'il faut aujourd'hui prendre cela en compte et se dire effectivement qu'est-ce qu'il faut faire. Comment faire en sorte que les forces politiques et les forces sociales, avec donc la volonté justement du pouvoir en place d'impulser des dynamiques qui consistent justement à faire en sorte que tout le monde se retrouve pour continuer à dialoguer ou peut-être même pour impulser un nouveau cadre de dialogue qui prendra en compte tout le monde. Donc ce constat, il est celui que une quarantaine de mois après, il n'y a pas d'élection.
Cette décision ou cette rallonge de la transition ne plaît pas beaucoup à l'opposition et à la société civile. Les forces vives de Guinée, qui regroupent donc l'opposition et les mouvements de la société civile, appellent à des manifestations pour le 6 janvier. Est-ce qu'on va vers un bras de fer inévitable, à votre avis?
Je pense qu'il y a, des dissensions profondes qui sont aujourd'hui exacerbé par le fait qu'on est s'achemine vers la fin de l'année. De mon point de vue, ces menaces-là, il faut éviter qu'elles soient mises en exécution, que les appels soient faits. C'est pourquoi l'allocution du président de la transition aujourd'hui est extrêmement importante. Elle est très attendue. Je pense qu'il y a, bien lieu d'appeler à, de reconnaître effectivement que l'on n'ait pas pu aller à ces élections promises, même pas un référendum comme cela avait été promis l'année dernière lors de l'allocution du président de la transition, et appeler les forces les plus importantes sous l'impulsion du premier ministre du gouvernement qui est donc chargé du dialogue social et politique, de mettre en place un cadre de dialogue pluriel qui entend tout au cours duquel dialogue toutes les questions, je dis bien toutes les questions, peuvent être posées.
Kabine Fofana, analyste politique.
Salut les amis, ici Roger Montou de VOA Afrique. Téléchargez et partagez l'application RM Show VOA. Vous allez pouvoir nous suivre en direct sans problème. Vous serez aussi en mesure de suivre des émissions manquées et nous appeler et participer en live en direct sur notre application RM Show VOA. Vous pouvez trouver l'application dans votre Google Play. Cherchez tout simplement RM Show VOA. Merci infiniment de rester connecté avec RM Show sur l'application Google Play RM Show VOA. Téléchargez et partagez l'application pour rester scotché à nous suivre chaque jour entre 20h à 21h temps universel. Rappelez-vous que RM Show, c'est chaque jour à 20h temps universel sur VO Afrique. Et je vous dis comme d'hab, God bless, peace Africa.
Revenons sur l'héritage de l'ancien président américain Jimmy Carter, décédé dimanche à l'âge de 100 ans. Son travail au sein du centre Carter a permis de sauver d'innombrables vies et de rapprocher de l'élimination de nombreuses maladies tropicales négligées. Alexandrine Hollognon nous présente dans son reportage les actions du centre Carter contre le ver de Guinée au Sud-Soudan.
La communauté du village de Jarweng pensait avoir vu la fin du ver de Guinée en 2014, mais l'année dernière, ce village isolé de quelques 500 personnes est devenu l'épicentre de la dernière épidémie au Soudan du Sud, enregistrant 4 des 6 cas recensés dans le pays. Migong Ageg et ses fils de 13 et 7 ans ont contracté le ver après avoir bu de l'eau dans un marécage lors d'un voyage hors de leur village en mai 2021.
Lorsque j'ai eu le ver de Guinée dans mon enfance, j'ai été opérée, mais la deuxième fois que j'ai eu le ver de Guinée, le centre Carter m'a aidée. Ils ont retiré le ver et je n'ai pas été réopérée. J'ai apprécié le centre Carter et sa présence.
Malgré l'agonie, grâce au centre Carter, le traitement n'a pas été aussi douloureux que lorsqu'elle avait contracté le virus dans sa jeunesse. Passant ses doigts sur une cicatrice beaucoup plus grande, également sur le bas de sa jambe gauche, Agueg explique qu'avant l'arrivée du centre Carter au Soudan du Sud, les locaux ouvraient les vésicules de verre de Guinée avec un couteau, endommageant souvent un nerf. En 2017, après des années sans ça, le centre Carter a cessé de travailler dans le comté d'Aouirial, où se trouve le village isolé de Jarwang. Cependant, depuis l'apparition des cas l'année dernière, il est revenu avec son personnel et ses bénévoles qui vont de maison en maison pour sensibiliser, distribuer des filtres à eau et former la population à leur utilisation.
After 8 years, in 2022, we report another 4 cases in our area.
J'ai travaillé avec le centre Carter pendant 8 ans en tant que bénévole dans un village, administrateur d'un camp de bétail et superviseur de zone. Le changement que le centre Carter a apporté, ce sont les forages, et le centre Carter a aussi empêché les gens de boiter en permanence. Avant, quand le centre Carter n'était pas là et que vous aviez le ver de Guinée, vous étiez coupé et vos nerfs étaient coupés et vous deveniez handicapé à vie. Aujourd'hui, le centre Carter est arrivé et nous a apporté des connaissances et une sensibilisation sur la manière de prévenir la maladie.
L'organisation a également commencé à enseigner comment rechercher le ver de Guinée chez les animaux, car l'un des 6 nouveaux cas détectés l'année dernière a été découvert sur un chien.
Il est très difficile d'éradiquer le ver de Guinée. Et nous essayons, le centre Carter et le programme d'éradication du ver de Guinée du Sud-Soudan, nous essayons très fort de faire une campagne, de sensibiliser la communauté sur la façon de contenir les cas de ver de Guinée et sur la façon de sensibiliser dans le comté et puis aussi dans l'ensemble du pays.
Au-delà du ver de Guinée, le centre Carter lutte contre d'autres maladies évitables, la cécité des rizières, le trachome, la schistosomiase, la filariose lymphatique et le paludisme, grâce à l'éducation sanitaire et à des méthodes de prévention et de traitement simples et peu coûteuses.
En 2024 a été une année riche en accomplissements en Côte d'Ivoire. De la Coupe d'Afrique des Nations en records mondiaux, le pays a su briller sur le plan international tout au long de l'année grâce à ses talents. Retour sur ces événements avec notre correspondant à Abidjan, Ange Nomenyo.
Le 11 février 2024, la Côte d'Ivoire remporte sa 3e Coupe d'Afrique des Nations à domicile. Le pays a réussi à réaliser l'exploit après avoir pratiquement été éliminé lors de la phase de poule. Un revirement de situation auquel beaucoup d'Ivoiriens ne s'y attendaient pas. Sekou Fofana, international ivoirien.
Et voilà, je suis un peu très heureux parce qu'on revient de loin, il fallait passer par tout ça pour être encore plus fort et revenir avec une force mentale incroyable. On a vu qu'on a été mené à chaque fois, ou parfois on a perdu un joueur, mais voilà, on a montré une force de caractère incroyable et ce soir, voilà, toute l'Afrique qui gagne. On est très heureux, on tient à féliciter aussi toutes les équipes qui ont participé parce que je pense que c'est la meilleure CAN qui a été organisée. Et voilà, merci au président, merci au gouvernement, merci à tous ceux qui ont pu participer à cet événement et j'espère qu'ils ont profité et peuvent être très heureux.
Aujourd'hui, c'est la Côte d'Ivoire qui gagne, la Côte d'Ivoire où il est. Non, mais l'Ivoirien, ça, pour ça, de faire et de faire. Il paraît que l'ambiance est là, l'ambiance est là. Et puis, en Afrique, même, comment dire, son numéro un, vraiment, c'est resté, mais faut apprécier. Ils sont un peu partout, comment dire, en Afrique, pourquoi pas dans le monde. Donc, vraiment, l'ambiance est là, les gars. Et puis, on est là,
on est là, on est là. Après cet exploit, la Côte d'Ivoire a brillé une fois encore aux yeux du monde en remportant le championnat de dictée le 19 mai 2024 au Canada. Une réalisation du jeune Ivoirien Loeven Krikoum Niel Samuel Marie, âgé de 10 ans seulement et en classe de CM2.
Mes parents me faisaient beaucoup lire. J'ai fait en moyenne 3 à 4 dictées par jour.
lorsque mes parents sont là, ils m'aident à faire les dictées et je lis beaucoup le dictionnaire. Pour être fort en dictée, il faut faire beaucoup de lecture car en faisant de la lecture, on apprend de nouveaux mots.
2024 s'achève avec une autre consécration pour la Côte d'Ivoire. Le plat local à Tchéké a été reconnu comme patrimoine immatériel de l'UNESCO. C'était lors de la 19e session intergouvernementale de sauvegarde du patrimoine culturel à Asuncio, au Paraguay. Ange Bijounomillon pour VOA Afrique, Abidjan.
Voilà, c'est tout pour cette édition du Monde aujourd'hui, VOA Afrique. Merci de l'avoir suivi. Un grand merci également à toute l'équipe de la rédaction et à la production. Rosine Nézéroité à ce micro, à la mise en onde, Lionel Mounamila Ganima. Rendez-vous sur notre site internet voafrique.com et nos pages Facebook, X et Instagram pour un suivi de l'actualité.